Le journal Adia Chibukou. Croissance de la famine à KCC dans le Maniema. La société civile de Babiraba Kwame lance un SOS. Elle demande au programme alimentaire mondial de sauver cette population qui ne peut plus cultiver à cause de l'insécurité. À Mbandaka, la population déplore la lenteur dans les travaux de réhabilitation de la route Mbandaka-Bikoro. Pourtant, l'Union européenne a déjà débloqué un montant pour ces travaux. Qu'est-ce qui explique cette lenteur? La réponse, c'est tout à l'heure. Polémique à Kinshasa entre le ministre de l'EPSP et la coordination des écoles conventionnées catholiques. À la base, le lotissement de l'école Athénée de la Gare dans le cadre d'un partenariat avec un étranger. Voilà tout pour les titres et tout de suite les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal à KCC, à 375 km au nord de Kindu. La population est en proie à la famine. Cette population a abandonné l'agriculture au profit de l'exploitation du coltan et de la cassitérite. Pour le petit nombre de personnes qui tiennent quand même à cultiver les champs, ils sont vite découragés par l'insécurité créée par les Interahamwe dans les forêts environnantes, ainsi que la présence de nombreux militaires FRDC. Ces derniers s'arrogent le droit de moissonner les cultures des villageois et aggrave ainsi la situation. Jean Yelenga Kambindou, président de la société civile de la collectivité des Babirabakwane, déplore cette situation. On l'écoute.
Un bobelé du riz coûte 400 francs, 500 francs. Je vous dis ouvertement que la famille, les familles ici mangent peut-être une fois deux jours. Une fois deux jours. Est-ce que c'est la collectivité qui doit encore débourser l'argent pour payer l'avion de PAM et de nous envoyer la nourriture ici? Les gens de Pune, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont donné de l'argent pour que cette nourriture les atteigne? Non. Pourquoi toujours la collectivité de Kassé doit être sacrifiée comme ça? Ce n'est pas bon. Le pire encore, nous n'avons pas de champs. Nous venons fraîchement de la guerre. Observez même les murs. Observez même les écoles, observez même je sais pas quoi, tout sont démolis, volés, pillés. Nous sommes restés, que nous on s'efforce comme des orphelins à cultiver quand même des pétiches à des bocages. Mais les prémices, au lieu qu'on puisse se partager, comme nous sommes des sinistrés, on nous ajoute encore un effectif énorme de militaires qui ne sont ni payés ni rationnés. Et tout cela, qui paye les pots cassés si ce n'est pas cette paisible population?
Et puis dans le sud Kivu, un groupe de combattants hutu-rwandais dirigé par le colonel 106, officier déchu, ont attaqué dimanche dernier un bataillon de l'armée congolaise dans le village de Kachewa, près de Bunyakiri. De sources militaires, deux hommes ont été brûlés vifs dans leur maison et six personnes ont été prises en otage puis relâchées. Un adjudant de la 101e brigade a pu sauver sa femme et son enfant, tous deux gravement brûlés. Ils luttent actuellement contre la mort à l'hôpital de Pandi. Je vous propose d'écouter le témoignage de cet adjudant au micro de Jean Kassami.
Je suis ici à l'hôpital de Panzi à cause de ma femme et mon enfant. J'étais brûlé dans la maison et c'était dimanche vers 17h30. Nous sommes suivis d'avoir un grand attaque dans notre camp. Des Ndéramois et des troupes de 5-6. Ils étaient venus en nombre de 150 personnes, compagnie organique. On était en nombre de 9 personnes dans notre état-major. Au moment où la maman était brûlée dans la maison, moi je n'étais pas là. J'étais dans la forêt. Au moment où je suis sorti, on m'a dit votre femme était brûlée dans la maison. Je l'ai suivi à Boyankiri. On est venu me dire que je prépare de venir ici à l'hôpital de Panzi.
Une autre victime, un jeune garçon, séjourne aussi à l'hôpital de Pandi à Bukavu. Il a reçu une balle dans la jambe gauche. Direction Katanga, les opérations de démobilisation des combattants invalides ont débuté hier à Lubumbashi. La Commission nationale de démobilisation et réinsertion a démobilisé hier 61 ex-combattants sur les 2000 recensés à travers la RDC. La cérémonie de démobilisation au camp Vangu de Lubumbashi a été suivie par le vice-président Arthur Zaidingo, venu spécialement de Kinshasa. Les détails avec Donat Chimboj.
En face de la tribune érigée pour la circonstance au camp Vangu, 61 ex-combattants, tous invalides, 58 hommes et 3 femmes, uniformes et bérets flambant neufs, ils s'apprêtent à dire adieu au métier des armes. Le protocole appelle 4 d'entre eux, 2 hommes et 2 femmes. Ils se tiennent en face de la tribune et un officier militaire les dépouille de l'uniforme militaire. L'assistance découvre la tenue civile que leur a offerte la CONADER. Un t-shirt blanc avec la mention CONADER, un pantalon noir. Moment d'intense émotion pour les membres de famille. Les coordonnateurs nationaux de la CONADER adressent des paroles aimables aux démobilisés.
Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la vie civile, le gouvernement a pris des dispositions pour ceux qui vont rester dans l'armée.
Ensuite, les démobilisés reçoivent des kits civils de démobilisation fournis par la CONADER. Un sac de voyage, un pantalon, une chemise et un seau. Les anciens combattants démobilisés reçoivent aussi des outils agricoles et une somme d'argent. On peut lire la joie parmi ceux appelés aujourd'hui à intégrer la vie civile.
Je suis très content de réintégrer la vie civile. J'ai appris à élever les porcs à Senagri. Nous demandons au gouvernement de ne pas nous abandonner, qu'il s'occupe de nous là où nous allons partir.
Des cérémonies analogues vont se dérouler à travers le pays, annonce pour sa part Arthur Zaïdingoma, vice-président en charge de la commission socioculturelle qui a rehaussé de sa présence la manifestation du jour. Bon, Donat Chimbosh, Lubumbashi, Radio Okapi.
La MONUC installe enfin ses bureaux dans le Bandundu. Une délégation de la mission onusienne au Congo est arrivée ce vendredi matin au Bandundu. Le gouverneur de province, Sabin Sabiboko, a conduit cette équipe jusqu'au chef-lieu de la province. La délégation devra arriver aujourd'hui même à Kikwit, où certaines populations étaient il y a quelques mois hostiles à sa présence. À la première étape de Bandunduville, les autorités provinciales ont rassuré à la MONUC de leur soutien. De Bandunduville, Georges Kamoujova.
La MONUC vient nous assister dans le domaine politique et sécuritaire, mais surtout pour des questions électorales, a dit Sabin Sabiboko à tous les membres du Conseil de sécurité. Son travail sera fait en harmonie avec les forces vives. Les populations de Kikwit ont compris le bien fondé, a-t-il ajouté. Pour le vice-gouverneur chargé de la politique et de l'administration qui a accueilli la délégation, le travail de la MONUC au Bandundu se fera pour le bien de tous. Étape protocolaire terminée, les autorités font visiter la délégation, différents sites de Bandunduville, dont les bureaux de représentation de la CEI. Le futur chef de la MONUC Bandundu, Joseph Feli, a rassuré que des bureaux seront installés dans un mois à Bandundu et à Kikwit. Ils seront constitués en majorité du personnel de la division électorale. Depuis Bandundu, Georges Kamoujova, Radio Okapi.
Ouvrons à présent le volet social. Près de 3 mois déjà, depuis que le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route Mbandaka-Bikoro a été donné. Mais les travaux avancent avec lenteur. Sur plus de 128 kilomètres, à peine 42 kilomètres sont réhabilités. Pourtant, l'Union européenne a déjà débloqué un financement de 80 000 euros pour la réhabilitation de cette route qui doit relier Kinshasa à l'Équateur en passant par le Bandundu. Qu'est-ce qui freine l'avancement normal des travaux? Explication de l'ingénieur Lokonda Yo Kongé, chef de la brigade de l'Office des routes qui exécute les travaux. Il est au micro de Dominique Wolombi.
Il y avait une étude du carbone parce qu'il fallait justifier l'ancien truc. Nous avons reçu le carbone depuis le 20. Au moment où je parle, l'équipe est déjà sur le chantier. Nous avons déjà des ateliers qui travaillent là-bas. Il y a un atelier basé à Pouillet 1 qui va s'occuper du reprocès systématique et l'autre qui est basé à Pouillet 2. Qui va s'occuper de l'élimination des points chauds jusqu'à l'entrée de l'activité de Songo. Avec la réussite du carburant, nous avons fait le carburant manuel. Précisément, je ne peux pas vous donner le temps qu'on va faire la gestion de l'insuffisance du matériel. Hein. Nous attendons le matériel quand le matériel viendra. On sera sûr. Mais actuellement, avec les matériels vétus que nous avons, je ne peux pas vous donner des précisions sur ça.
Restons dans le volet social, mais cette fois-ci au Kasaï oriental. Alors que se tient actuellement à Kinshasa un conseil d'administration extraordinaire de leur entreprise, les travailleurs de la Saint-Gamine poursuivent leur sit-in devant les bureaux de la MONUC à Mbujimayi. Les travailleurs de cette société minière demandent toujours à la mission onusienne au Congo de peser de tout son poids pour que les autorités congolaises se penchent sur leur situation. Ces travailleurs exigent avant tout le paiement de leurs 5 mois de salaire. Écoutez Gaston Tchalou, délégué syndical des travailleurs de la Saint-Gamine, il est au micro de Chris Moukand.
Issu de ce conseil d'administration extraordinaire qui devrait commencer aujourd'hui, que nous espérons bien, nous attendons le paiement de nos arriérés et des salaires de 4 mois. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se vivent dans les milieux des travailleurs. Actuellement, nous enregistrons des morts subites. Il y a des gens qui sont complètement délogés, sous-logés. Il y a d'autres sous la belle étoile. Ils ne savent plus à quel sens c'est voué. Alors, tout ce que nous attendons de cette réunion, c'est le paiement de nos salaires. Que celui qui va prendre l'entreprise ou celui qui va rester, ce n'est pas notre préoccupation actuellement. Qui peut être négocié pendant longtemps, 10 ans, 4 ans, ça ne me préoccupe pas. Pour le moment, nous avons des problèmes qui nous préoccupent, c'est nos adhérents des salaires. On nous donne l'argent. Qui peut négocier le temps que ça prendra, ça nous arrangerait pour autant que nous avons notre argent.
Revenons dans la capitale, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire ordonne l'arrêt des travaux de construction en cours d'un complexe commercial dans l'enceinte de l'école primaire de la gare dans la commune de La Gombe. Pour Ndom Daobel, cet établissement est jusqu'à ce jour une propriété de l'État. L'Église catholique a donc entrepris ces travaux de manière illégale, a-t-il poursuivi. On l'écoute.
Cette école-là spécialement, l'occupation par les catholiques l'est de manière illégale. Il n'y a pas eu de convention entre les catholiques et nous par rapport à cette école. Quand bien même eu convention, les écoles qui les gèrent sont et les gèrent au nom de l'État. Nous sommes propriétaires de ces écoles. Donc, on ne peut pas concevoir qu'il y ait aliénation des biens qu'on vous donne en location sans vous référer au mandant. Nous n'avons jamais été saisis. De trois, l'objectif pour lequel cette partie a été aliénée, quel qu'il soit, est incompatible avec l'idéal éducation. Pour toutes ces raisons, nous disons, on arrête et on ne peut pas continuer.
Réponse du berger à la bergère, la coordination des écoles conventionnées catholiques parle plutôt d'une initiative visant l'autofinancement de l'école. Il s'agit d'un contrat de location d'une dizaine d'années avec un partenaire étranger, un contrat qui selon lui est très bénéfique pour l'école. Par ailleurs, M. Pélingué affirme que le ministère avait été saisi avant le début des travaux et n'est pas contredit l'initiative.
L'école gagne d'abord la réhabilitation de son bâtiment. L'école gagne dans l'immédiat la salle polyvalente. Il y aura le loyer que le partenaire va payer. Les recettes de la salle polyvalente ainsi que le loyer serviront à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants et des conditions d'études des élèves. À terme, l'école va gagner cet immeuble-là. Nous sommes référés à la convention et règlement d'ordre intérieur. Là, il est dit que le représentant légal est le responsable direct des réparations, des constructions. Donc nous sommes placés sur ce plan-là. Nous espérons que au-delà de ce qu'on peut considérer comme vice de forme ou de ceci, on va voir la motivation profonde qu'est la réhabilitation de l'école ainsi que son autofinancement.
Vous avez suivi Pélingué de la coordination des écoles conventionnées catholiques qui s'exprimait sur ce que gagne cette école dans ses contrats au micro de Mimi Ngumba Mulungu. Processus électoral, 50 centres d'inscription au lieu de 41 prévus auparavant viennent d'être repérés dans la localité de Kongolo. Le chef de bureau de liaison de la commission électorale indépendante l'a fait savoir lundi dernier au bout de sa mission. En effet, le chef de bureau de la CEI Tanganyika, Bienvenue Sango, qui a effectué une mission d'une semaine dans le secteur de Kongolo, dans le Katanga, indique que la population souffre d'un manque d'informations en matière électorale. Il se réjouit en même temps du résultat obtenu au bout de sa mission. Écoutons à ce sujet Bienvenue Sango au micro de François-Xavier Mibé.
Sur les 41 centres d'inscription à repérer, nous avons pu faire 50. Il y a des contrées qui ne pouvaient pas se déplacer vers d'autres centres. Comme la stratégie, c'est de rapprocher les centres d'inscription des habitants, c'est ainsi que nous avons voulu d'abord repérer, quitte à notre part de proposer à la hiérarchie pour prendre une éventuelle. Parce que d'abord, nous avons trouvé un déficit d'information. Ça nous a permis en même temps de faire la sensibilisation, informer aux gens que l'enrôlement pour les électeurs au Katanga commence le mois prochain et la population en est très contente. Ici, il n'y a pas d'équipe comme telle. L'équipe est basée à Kabale, qui relie Kabalo à Kalemi. Donc ici, c'est seulement les centres d'inscription que nous allons ouvrir. Et éventuellement, on ouvrira aussi une cellule logistique.
Kindu de nouveau, les habitants du chef-lieu du Maniema attendent toujours l'installation de deux émetteurs radio et télévision réceptionnés par la RTNC Maniema. Ces outils médiatiques ne sont toujours pas opérationnels. Le premier émetteur radio était déposé à la RTNC par l'ancien ministre de l'Information, Vital Kamerhe, depuis l'année passée. Le deuxième émetteur télévision ainsi qu'un groupe électrogène de 63 kV-ampères arrivé au mois de juin dernier sont gardés encore dans la résidence du gouverneur. L'administrateur directeur général de la RTNC dit que l'installation de ces outils médiatiques relève du contrat signé entre la société Téléconsulte et le gouvernement congolais. Kipolongo Mukambilwa vient au téléphone par Gabriel Wamenya.
L'implantation de ces émetteurs dépend de l'application ou de la suite à donner au contrat qui a été signé entre Téléconsulte et le gouvernement de la République. Et ce contrat prévoit que on ne installer les émetteurs sans la présence de Téléconsulte. Donc le tout dépend de la rapidité avec laquelle et le gouvernement et Téléconsulte vont accomplir ou remplir ce contrat-là. Et puis le deuxième problème, c'est le problème de l'énergie. Ça ne sert à rien d'installer les émetteurs sans qu'il y ait une source d'énergie. Et il me semble que de ce côté-là, Kindu n'est pas très très nanti. Il y a un groupe qui a été envoyé à Kindu. Mais oui, mais ce groupe-là ne fonctionne pas à vide. Il faut qu'il y ait du carburant. Il faut qu'il soit approvisionné et régulièrement. Il faut donc se rassurer pour savoir si les conditions sont réunies. Il ne faut pas que le groupe tourne pendant une semaine et puis l'autre semaine, il n'y a rien. Okapi.
Okapi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Radio Okapi, c'est à 13h, heure de Kinshasa.